Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec Morgan Cadignan, avec Tom Villa, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invitée est la dessinatrice Catherine Meurice. Bonjour à tous, Catherine.
Ça sent les vacances.
Ouais.
Bah non, attends, on a la semaine prochaine à faire.
Le week-end, c'est déjà les vacances. Catherine Meurice vient nous présenter son nouvel album, La jeune femme et la mère, aux éditions d'Argo. Un très très bel album où elle nous plonge dans son voyage au Japon, à la découverte des paysages, du beau.
Oui.
Le beau qui n'est pas le beau occidental, on va en parler avec elle. Avec quoi on va jouer d'après vous pour ce blind test?
Avec la mère, avec ouais,
les jeunes, les
avec
filles,
les jeunes. La mère.
Premier titre.
Daniel.
Morgan.
Daniel.
Charles Trenet.
Ouais.
La mer.
La mer. Bah oui.
La mer. Les aberrassés.
J'ai fait multigénérationnel. Attention, on pense. Bah oui.
Donc, on va dire. Pas dit que je trouve tous les jeunes comme Trenet. Hein,
comme
vous
disais d'ailleurs.
Dire, Daniel. Deuxième titre.
Morgan.
Quel
Calogero Passy.
Face à la mer.
Face à la mer. Bravo.
De grandir face contre terre. J'aurais pu.
Un point pour Daniel, un point pour Morgan.
Je prends mon terre.
Joli, Tom.
De la même
taille. Oui. J'aime bien, moi.
Troisième titre.
Tom.
Oui.
Jonas.
Tu m'as fait peur.
Je voyage au. Et on allait voir la mer.
Les vacances,
les vacances au bord de la mer.
Les vacances au bord de la mer, Tom, c'est une bonne réponse.
Un point le partage avec Tom. Il aime Michel Jonas. Ouais, j'adore.
Mais moi aussi. Des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants.
Et tout
faisait que passer devant.
Un point pour Tom. Non, un point pour Tom. Pour Morgan et pour Daniel.
Le matin, on se.
Vous connaissez ça,
c'est une reprise.
Est-ce que c'est pas du Bachung?
Non.
Tanguy, j'essaie au hasard, Benjamin Biolay, non?
Non.
Non.
Ça pourrait.
Très longue intro.
Ouais, trop longue.
Ouais, mais bon, c'est pour vous laisser vous chauffer. Écoutez bien.
Très pénible ce titre.
Merci, Tanguy.
Non, pardon. On prend un café.
C'est oui. Français.
C'est français.
La mer n'existe pas.
Tanguy.
Oui.
Parfois nous la.
Marie Kelly.
Non.
Non.
Ah, c'est qui cette voix là?
Mais oui.
C'est
Pardo Mengo.
Si.
Oui, voilà.
Bravo.
Il a dit c'est Pardo Mengo.
Si.
Oui,
il a nié.
Ouais, je suis d'accord. Ah, ça
c'est ce truc sur la langue. France Inter.
C'est un joli point de Tanguy. Retrouver Pardo Mengo. La mer n'existe pas. Un point pour Tanguy, un point pour Tom, un pour Daniel, un pour Morgan.
Tom.
Morgan.
Tom, oui.
C'est Bobby Darin.
Daniel.
Beyond the Sea.
Alors là, joli.
Morgan.
Daniel.
C'est pas le bon interprète.
C'est Robbie Williams.
Bah non, c'est Frank Sinatra.
Non.
Ah bon. Ah,
mais elle a été reprise. Williams.
Ah bon, d'accord.
Et non, mais oui.
Non, c'est Robbie Williams.
Je pense qu'il devrait avoir un double point
c'est
pour avoir l'original.
C'est dans la BO de Nemo. Et ouais.
Non, ça c'est pas.
Non, mais déjà, un point rien que pour avoir donné le nom Bobby Darin.
Oui.
Je veux dire que personne ne connaît. Donc.
C'est vrai.
Après, voilà. On peut la mettre en compte commun.
Non.
Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à Morgan parce qu'elle a l'interprète.
Exactement.
Mais Tom, je te promets que.
On te félicite.
Bravo, c'est le plein d'air.
Alors, t'as
belle énergie.
Bah, joli, hein.
Sixième titre.
Daniel.
Oui.
Gainsbourg. Si ça tient ça.
Oui.
À Gainsbourg. Alors,
tu l'avais en tête, non?
Quoi?
Tu l'avais en tête avant, non?
Tous les jours, je l'ai en tête.
Dès qu'elle a été bronzée,
tous les jours.
J'en ai fait des saloperies, Daniel, là-dessus.
Je vais rattraper des trucs
avec des mineurs.
On continue à jouer autour de la mer pour accueillir Catherine Meurice et son album La jeune femme et la mer. Dernier titre, c'est le super banco. Ça va jouer vraiment à la rapidité. Donc on crie vraiment bien son nom.
Et on crie.
T'es prêt?
Oui.
Daniel.
Allez, Daniel.
Alors, c'est Daniel.
Les Beach Boys.
C'est Daniel. Les Beach Boys. Le titre.
Good Vibration.
Good Vibration.
Wow.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Et c'est une victoire.
Éclatante.
De Daniel Morin.
Éclaté.
Bravo.
Ah, je suis tout seul à applaudir. Bah, bravo. Merci.
Bravo. Merci, Tom. Merci.
Merci.
Et on accueille Catherine Meurice.
Bravo.
Groupe Inter. La bande originale.
Leïla Kadou. Bonjour Catherine, soyez la bienvenue dans Merci. La bande originale. Vous nous parlez aujourd'hui de La jeune femme et la mère, ce très bel album que vous venez de publier chez Dargo, un album qui nous plonge avec vous, puisqu'on suit votre personnage, la petite Catherine, Catherine qui se promène au Japon. Qu'est-ce qui a déterminé ce voyage? Parce que je crois que le Japon, c'est une terre que vous connaissez assez bien, vous y êtes allée plusieurs fois.
J'y suis allée plusieurs fois, mais je dirais pas que je connais assez bien le Japon. Je crois qu'on le connaît jamais.
Jamais.
Vraiment.
Ouais.
Est-ce qu'on peut vraiment connaître le Japon?
Je crois pas. J'y suis allée en me disant je vais rien comprendre et quand je vais rentrer en France, j'aurai rien compris. Bon, c'est ce qui s'est passé.
C'est un joli projet.
Voilà,
projet.
L'ignorance.
J'ai rien compris.
L'ignorance.
J'y vais.
Mais non, il y a deux séjours au Japon qui ont nourri mon inspiration, qui sont à l'origine de cet album. Un premier voyage que j'ai fait dans une résidence d'artiste très belle, qui s'appelle la Villa Kujoyama à Kyoto.
Oui.
Je suis restée 4 mois et j'avais en poche un bouquin d'écrivain japonais, Natsume Soseki, qui est un petit peu le Proust japonais. Ça tombe bien, ce Proust, et pas Prout. Hein, j'ai pas dit Prout.
Proust, vous le connaissez bien.
On a briefé Catherine, ouais. La gratuité. Ouais.
Elle connaît très mal le Japon, mais connaît bien Daniel.
Voilà.
Est-ce qu'on peut vraiment connaître Daniel
même après 4 mois.
Et ce livre très très beau parle de, je reprends hein, le sujet intello, parle d'haïku, de poésie, d'inspiration. C'est l'histoire d'un peintre qui cherche inspiration, qui part dans la nature pour essayer de peindre un tableau.
Oreiller d'herbe, c'est ça?
Et Oreiller d'herbe, exactement. Donc j'avais peut-être l'intention d'illustrer ce roman, c'était pas encore très clair. Mais le second séjour que j'ai fait au Japon a été assez déterminant parce que j'y suis allée avant le confinement, donc de 2020, à l'automne 2019, au moment où le typhon Hagibi a dévasté une partie du pays. Et moi, j'étais dans le sud de l'archipel à ce moment-là, mais j'ai vu ce que c'était pour la première fois de ma vie que voilà un endroit qui est où tout s'arrête, les avions s'arrêtent, les bateaux s'arrêtent, les trains s'arrêtent. Et mes amis japonais disaient c'est comme ça, le typhon va passer, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et j'ai décidé de mélanger voilà ces deux périodes, ces deux moments qui étaient riches d'informations, voilà. Donc ça donne La jeune femme et la mère.
Et vous débarquez là-bas, vous parlez pas un mot de.
Ah si.
Mais non. Si bonjour, au revoir, merci.
4-5 mots. Oui.
Voilà. 4-5 mots, mais en revanche j'ai appris le tanuki. Je parle la langue du tanuki.
Alors oui. Ce tanuki, voilà. Parlons-en. Cette créature donc mythologique qui ressemble à une sorte de raton laveur ou de
chien viveur. Il paraît que c'est plus proche du chien que du raton.
Qui a des roubignoles extra larges.
Oui, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Japon. C'est un animal mythologique japonais.
Mais bien sûr.
Daniel, une blague sur les roubignoles. Les grosses pistaches.
Oui, je sais pas si vous connaissez le film. Je dirais ça maintenant, les grosses pistaches.
Ouais, ou les ballottines.
Voilà.
Ouais.
Parce que je savais pas sur France Inter comment évoquer ces parties.
Oh, bah, les couilles.
Voilà pourquoi on a fait venir Tom Villa aujourd'hui.
Morgane, pardon, il y a là-dessus. Il y a Pokoma aussi. Il y a pas que sur le blind test.
Non, mais alors c'est la cour d'école, ils se dénoncent, on en est là.
Donc, oui, je préfère la cour d'école qu'autre chose.
Donc ce personnage-là, vous êtes en mesure de le voir, de discuter même avec lui. Il est animé par la parole.
Oui, déjà c'est un animal que j'ai vu réellement au Japon, parce que c'est très courant, c'est aussi courant que les sangliers, donc c'était assez chouette de voir ce tanuki passer devant ma fenêtre quand j'étais en résidence à la Villa Kujoyama. Et en effet, dans l'album, c'est un personnage doué de paroles qui me fait traverser le miroir, en quelque sorte. Ouais. C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, mais sauf qu'elle ne suit pas un lapin blanc, elle suit ce petit tanuki poilu.
Qui vous équipe ?
Exactement, qui m'équipe, qui m'offre un pinceau. Un pinceau spécial, on ne dira pas d'où vient ce pinceau.
Si on peut le dire.
Non, je laisse le lecteur découvrir cette touche de poésie. Et il me fait écrire.
C'est dans le champ lexical des roubignoles.
Exactement.
En tout cas.
Voilà. C'est la
Morgane,
petite partie.
Morgane, une idée.
C'est la petite partie un petit peu olé olé du livre, sinon c'est extrêmement poétique et profond.
Ouais, mais en fait,
après, il y a de la fleur de trésor.
Mais moi, c'est ce que j'ai aimé dans cet album, parce qu'à la fois, il y a une véritable rêverie, une poésie qui nous fait en effet apercevoir et pénétrer des paysages qu'on connaît pas, parce que on va parler aussi de ce rapport au beau et au paysage qui vient d'ailleurs, auquel on n'est peut-être pas habitué, mais qu'on peut reconnaître. Et puis, on reconnaît toujours la patte de Catherine Meurice. Moi, c'est ce que j'adore dans vos albums, c'est que je ris toujours. Il y a un petit côté grivois parfois, un humour, on peut se moquer de soi-même. Donc ça fait partie aussi des composantes qu'on retrouve dans quasiment tous vos albums.
Ah oh, oui, l'autodérision, oui, évidemment. Sinon, je m'ennuie et j'ennuie le lecteur. Donc ça, c'est c'est important. Et sinon, c'est sûr que cet humour, cette grossièreté parfois, bah, c'est propre à la caricature. Je suis aussi caricaturiste, en plus d'être dessinatrice de bande dessinée. Et j'emprunte aussi, dans cet album, je m'inspire beaucoup des estampes. J'ai beaucoup travaillé d'après photos, les photos que j'ai prises sur place, mais aussi d'après des estampes. Et Okusai, Hiroshige, quand on voit les caricatures d'Okusai,
Kabu aurait fait
pareil. Enfin, oui, c'est assez méconnu. On connaît surtout les belles images de paysages, mais il est la quand vague. Même à l'origine de ce qu'on appelle le manga aujourd'hui. Il a fait des dessins des grotesques, des choses absolument formidables, très inspirantes aujourd'hui. Donc c'est ça, le grotesque est là depuis toujours en fait. Donc je l'invite naturellement dans mes bandes dessinées et ça me permet d'exprimer des choses qui peuvent être poétiques, mais je préfère pas le dire j'espère la grandiloquence.
Mais moi je le dis pour vous, comme ça voilà, c'est réglé. Il y a un côté manga aussi. Avec le personnage, ce peintre que vous rencontrez,
qui ne peint jamais.
Voilà, mais qui peint jamais. Il a peint, sauf que là, il n'y parvient pas. Et il a une forme d'inspiration qui lui tombe sur la tête. Et on est quasiment dans du. Mais c'est vrai, c'est Nicky Larson, quoi. Quand il se prend un coup de marteau parce qu'il a regardé une fille, c'est la même chose avec ce peintre.
Et c'est vrai que j'ai été marquée enfant par ces dessins animés, le Collège Foufou.
J'adore, absolument
hilar. Et cette façon dont les personnages pouvaient étaient réalistes et puis soudain faisaient 5 cm de haut.
Avec visage déformé, marteau énorme.
Voilà, c'était vraiment génial.
Avec deux bosses.
Exactement. Et là, dans mon album, oui, le peintre n'arrive pas à peindre, ne produit que des haïkus et tombe à chaque fois à la renverse. Donc, moi, j'adore le burlesque. Hein. J'essaie d'en mettre à chaque fois dans mes albums. Les chutes, les pots de banane, les gags à la Charlot.
Les proutes.
J'adore, voilà.
Daniel est là. On est là, ah, mais j'ai pas dit prout, et puis là, voilà, il y a des proutes. Tellement des proutes.
Et pourquoi avoir parlé de Marcel Prout
Et donc, ce personnage de peintre, je l'ai trouvé dans le roman de Soseki.
Oui.
Évidemment, je le rends beaucoup plus comique dans mon album, et puis je m'inspire très librement du roman, donc je m'égare même, à tel point que je ne sais plus ce qu'il y a dans le roman de Soseki, ne me demandez pas de le résumer. Et voilà, et donc mon personnage demande régulièrement au peintre, alors qu'est-ce que vous avez peint, etc. Et lui, il est incapable de répondre. En revanche, il a des bosses au front et la bosse à chaque fois indique un poème, un haïku, qu'il déclame comme ça.
Un très bel album, La jeune femme et la mère aux éditions d'Argo, signé Catherine Meurice. Nous, on vous aime autour de cette table, Catherine, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut quand même un petit contrepoint. Et ce contrepoint, c'est Morgane Cadignan.
Contrepoint. Ouais. Catherine Meurice, je vous aime pas, même si à l'époque, j'ai aimé chaque strip de scène de La vie hormonale. C'était chiant, mais merci pour cet album. Aujourd'hui, avec La jeune fille et la mère, on est plus sur une bande dessinée avec quelqu'un en quête d'inspiration, en quête de nature, et surtout quelqu'un qui a pris du LSD à son insu, non? Parce qu'il y a quand même quelques pages pendant lesquelles vous discutez avec le chien raton du film Pompoko, quand même. En plus, vous mettez beaucoup de vous dans vos BD, donc là j'ai du mal à me dire que c'est juste une partie un petit peu romancée. En plus, du coup, j'ai énormément de questions. Dose, effet, fournisseur, numéro de téléphone. Je plaisante évidemment drogue, c'est... Non, je plaisante. Tu disais quoi, Leïla, la semaine dernière
avec
sur
modération.
La drogue? Ah oui, avec modération. Encore, ça c'est ce qu'il a dit à l'antenne. Imaginez quand l'émission se termine, Morgane, Tom, chaque jour un petit joint éloigne le médecin, on ne l'arrête plus.
C'est pas vrai.
Plus sérieusement, Catherine, si je parle d'herbe, c'est pour illustrer votre tour au vert. Et votre rapport à la nature, il n'est pas nouveau, puisqu'en 2018, vous publiez Les Grands Espaces, livre dans lequel vous revenez sur toute votre enfance passée dans le Marais Poitevin. À l'époque, vous questionnez déjà votre rapport à la nature. Et c'est de nouveau le cas ici, avec un bilan carbone un peu plus scandale, puisque vous êtes au Japon. Après, ça va, vous prenez l'avion, mais le reste du temps, vous buvez du thé, vous faites des pinceaux à partir de poils de cul d'animaux imaginaires.
Voilà.
Donc, voilà.
On l'a dit.
C'est pas vous qu'on pourra accuser de surconsommation. C'est joli ce retour aux sources, à la nature, qu'on a redécouverte essentielle depuis 2 ans avant tout ça. Moi, avant le confinement, la nature, ça consistait surtout à insulter la mère du pollen. Et en plus, c'est dur d'être contemplatif face aux merveilles des grands espaces. Pardon, mais la force que ça demande de rester assis des heures sur une plage à regarder les vagues en faisant abstraction des milliers de bits en sable qu'on pourrait ériger pendant ce temps-là. Enfin, parfois, je sens vraiment que j'ai besoin de me reconnecter aux éléments. Et à la première fourmi Girou, je me dis que cette clairière, elle ferait un beau parking, quoi. C'est vrai, c'est souvent que tu te balades en forêt de Rambouillet, que t'as envie d'un Starbucks et que t'es emmerdé, quoi. Donc, l'amour de la nature, c'est un truc de gens qui vont bien, je pense. Sur un sentier, dans les bois, tu t'entends trop penser. Qu'en pleine ville, au moment où tu te rends compte que peut-être t'as pas tout réglé de ton enfance, bam, le monsieur qui hurle en te faisant pipi dessus, il te rend un vrai service. Mais c'est pas encore aujourd'hui que ça va se régler, Oedipe. Franchement, ça demande vraiment une âme d'illustratrice d'aller se foutre en pleine pampa japonaise pour trouver l'inspiration. Déjà, parce que ça doit être dur, la panne sèche quand tu dessines. La page blanche quand t'écris, tu vois, c'est franc, c'est la page, elle reste blanche. Quand tu touches au dessin, ça doit être tentant quand même de renverser ton encrier sur une feuille et dire que c'est de l'abstrait, quoi. Si ça se trouve, à la base des vases, Jackson Pollock, il s'est juste mouché dans un A4 et le truc, ça l'a complètement dépassé.
C'est sûr.
Pardon, les amis, faites un tour à la FIAC de Paris, la moitié des œuvres, ça ressemble quand même à quelqu'un qui a trébuché sur quelque chose, quoi. Et puis, surtout, il y a deux Japons, Catherine. Nous autres, autour de la table, qui nous emmène au Japon, on n'est pas en train de faire des croquis au milieu des cerisiers en fleurs. Je pense qu'à peine débarqué, on est déjà dans des bars à câlins et que je me déguise en Pikachu, Daniel, il est en écolière, ou le contraire, on en a parlé, et qu'on part dans tous les karaokés de la ville reprendre la BO de Titanic en japonais. Donc Catherine, retournez à la nature souvent, mais revenez remplir nos librairies quand même, entre deux, parce que moi je compte sur vos albums pour mettre un peu de joli dans mes journées. Daniel, les costumes pour Tokyo sont arrivés, on choisira plus tard qui fait qui, mais achète des collants quand même.
Alors l'écolière
Morgane,
elle a oublié celle-ci.
Du jeudi au samedi au Métropole, retrouvez Morgane si vous voulez, vous n'êtes pas obligé.
En Pikachu.
Ou en normal.
Parce que cette quête du beau, Catherine. Je ne sais pas comment enchaîner. Parce que cet album, c'est aussi une forme de conte philosophique. Quand Morgane disait, c'est vrai qu'on nous met, nous, en pleine pampa, on va peut-être avoir du mal à apprécier. Ça met un temps, ça demande quoi? D'être en mesure de regarder ce qui est face à nous. Est-ce que c'est un regard qui est évident pour vous en tant que dessinatrice ou ça vous a demandé un temps d'acclimatation pour vraiment contempler ou regarder de façon consciente ce qui se passait devant vos yeux ?
Je crois que je fais ça depuis longtemps parce que quand on est dessinateur, on fait ça depuis longtemps. Mais ça ne m'a pas empêché au Japon de faire du karaoké. Alors, je ne me suis pas déguisée en Pikachu, mais j'ai quand même fait d'autres choses.
Les bars à câlins ?
Voilà. ou les bars à chats.
À chat.
Exactement, mais non, c'est sûr que pour être dans cet état de contemplatif, il faut être seul. Et j'ai beaucoup aimé me balader seule au Japon, et c'est assez facile, même en tant que femme, de se balader toute seule sans être emmerdée, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et je voulais voir le Japon rural, donc je suis surtout allée dans le sud, dans le Kyushu, pour voir des paysages qui me rappelaient aussi mon enfance.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un territoire pourtant très éloigné de nous, de vous, et pourtant il y a des passerelles.
Oui, c'était une grande surprise. C'est sûr que je ne reconnaissais rien et à la fois je me retrouvais dans ces paysages.
Le Marais Poitevin et le Japon.
Le Marais Poitevin. Oui, j'ai eu un moment proustien pour en finir avec Proust. Non, c'était vraiment tout au sud. Après on arrête, ouais. Tout au sud de l'archipel et je me baladais dans un paysage, très exotique. C'était vraiment une lumière particulière, les cerisiers en fleurs voisinés avec les palmiers. Enfin, vraiment, la végétation là-bas est assez singulière. Les forêts ressemblent à des brocolis. Enfin, c'est assez beau. Et il y a eu à un moment donné un parfum qui m'a subitement rappelé
Quel parfum ?
Je sais pas, une odeur, vraiment la petite Madeleine. Non, pas d'herbe. je ne sais pas, mais il a fallu que je m'arrête parce que j'ai le Poitou, pas le Marais Poitevin, mais c'est un petit peu à côté, dans le Deux-Sèvres. Il y a quelque chose qui est revenu très très fort.
Le Pays Mélois ?
Ouais, le Pays Mélois.
C'était pas le baudet du Poitou ?
C'était pas cette odeur-là. Non,
qui est un âne pour les gens qui.
Vous êtes une secte en fait.
On est trois là, on est trois. On n'a pas encore parlé
des mojettes.
Et des mojettes.
Vous n'avez jamais été autant.
Mais là, on est sur France Bleu.
Ouais. Oui, d'accord.
Là, on est sur France
Bleu. Et alors, on a pris le pouvoir.
Ouais, et voilà. Ouais. Et donc, ce moment que je n'avais pas vu venir a été tellement riche de sensations que j'ai voulu le mettre dans l'album. Donc, il se retrouve un petit peu transformé et placé dans mon histoire. Et ça dit quoi? Que bon, bah, on le sait, on peut partir au bout du monde, on part toujours avec soi, qu'on aille bien ou mal. dans la nature. Et oui, il y avait peut-être encore une question sur l'identité qui était présente déjà dans mes albums précédents, dans la légèreté surtout, et voilà, qui se repose là de manière un petit peu plus éparpillée. voilà, dans ce paysage japonais. Ouais.
Qu'est-ce que ça a changé à votre palette de couleurs, par exemple, le Japon et cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envisagées différemment dans le traitement de la couleur, dans votre dessin même?
Alors, plus dans le dessin que dans la couleur. Il se trouve que dans l'album La jeune femme et la mer, c'est Isabelle Merlet qui a fait les couleurs, une coloriste absolument géniale qui avait déjà mis en couleur les grands espaces. Et je voulais absolument qu'elle mette mes dessins en couleur. Je comptais sur elle, sur son imaginaire aussi, pour que nos imaginaires s'additionnent et ça peut créer des surprises. Non, surtout, en ce qui concerne le dessin, c'est vrai que ce voyage au Japon m'a donné à renouveler un petit peu ma banque d'images très, très occidentale. Et en regardant un petit peu tout, pas que le manga, pas que les estampes, mais aussi en regardant les peintures plus contemporaines, en rencontrant des artistes japonais aussi là-bas. Moi, ça m'a donné envie d'utiliser d'autres outils. Et il se trouve que La jeune femme et la mer, c'est dessiné avec la plume. Alors, c'est un outil que je connais bien parce que je l'emploie depuis que je suis dessinatrice, notamment de presse. Et j'y ai ajouté le fusain, qui est un outil très simple et qui créer des effets veloutés. Voilà, donc à chaque album, il y a une technique différente qui me permet de saisir le mieux possible, enfin j'espère en tout cas, les textures et les volumes, que ce soit les écorces, la pierre, etc. Je vais trouver la technique qui va essayer de rendre ça le mieux possible.
Il y a votre leçon de dessin en ligne sur le site de France Inter avec Anne Douer. On vous voit dessiner ce tanuki qui est un peu gonflé, hein, qu'on aime bien comme personnage. Ça m'a fait penser aussi au renard dans Roman de renard, quand vous avez traversé l'histoire de la littérature française à travers les siècles. Il y avait toujours un petit... Je me suis dit, elle aime bien les petits animaux pour être un peu des guides aussi narratifs, pour nous entraîner avec elle.
Oui, c'est vrai. Et puis l'animal, c'est une métaphore vraiment formidable. Hein, pour parler des humains, le roman de renard, c'était ça. C'est sûr que je l'ai beaucoup illustré dès l'enfance, en fait. et ça s'est retrouvé quand j'étais étudiante et même plus tard dans mes hommes de lettres. Oui, l'animal permet de parler de nous de manière plus fine, je crois, ou plus farceuse, mais on en prend pas moins dans la tronche. Voilà, donc c'est très très utile. Et c'est vrai que peut-être que dans un prochain livre, je dessinerai encore plus d'animaux, parce qu'il y a vraiment un plaisir aussi de dans la forme. Dessiner les humains, c'est assez fatigant. Enfin, moi, ça me lasse quand même. On est tous assez plus ou moins.
Sinon, pareil. Ça va.
Voilà. Si, ça va très bien.
Une petite déprime.
Non, ça va. Non, mais je nous ai beaucoup dessiné. Voilà, faut changer un petit peu de crânerie.
Et cette jeune femme, parce que finalement, on pourrait imaginer que c'est vous, la jeune femme et la mère, mais c'est pas nécessairement vous dans cet album. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sans trop dévoiler, parce que là, c'est vous là.
Oui, en effet.
C'est vous là, la maîtresse là.
En effet, la jeune femme et la mère, cette jeune femme, elle s'appelle Nami. C'est une jeune japonaise assez mystérieuse.
Multiple mariée et divorcée.
Voilà, qui a énormément d'amants, de maris, qui fait absolument ce qu'elle veut.
Une trentaine, c'est ça?
Avec les hommes, même plus. Oui, je reste assez pudique sur le nombre d'amants. Mais donc, elle intrigue dès les premières pages le personnage qui me ressemble et le personnage de peintre et tout un tas de... Voilà, le tanuki semble connaître cette jeune Nami depuis longtemps. Et Nami, elle est liée aux éléments. On comprend ça au fil des pages. On comprend qu'elle est très proche de la nature, notamment qu'elle a un lien particulier avec la mer. On comprendra pourquoi dans les pages, elle est liée notamment à une estampe très célèbre. Et elle a une histoire et elle peut prédire les cataclysmes naturels.
Voilà. Comme les grenouilles ou comme un certain nombre d'animaux qu'on observe pour savoir s'il va y avoir un tremblement de terre.
Exactement, elle sent cela et elle peut le lire dans les plis de la mer en effleurant la surface de l'eau. Et donc ça intrigue sérieusement mon personnage qui va poser toute une série de questions. L'album, quand on dit que c'est un conte philosophique, c'est vraiment une série de questions que je pose parfois naïvement. Et en avançant dans l'album, j'obtiens quelques réponses, pas toujours, parce que c'est bien d'entretenir le mystère.
Mais... Ouais.
Et voilà, donc Nami va, est un personnage qui domine tout l'album, tout en étant assez, elle apparaît de temps en temps, elle est assez fugace, c'est une présence, mais c'est un personnage bien, bien réel, et on connaîtra son histoire à la fin, vraiment dans les dernières pages de l'album.
Ouais. Personnage que vous avez rencontré?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Ça, c'est une... C'est une pure invention. C'est vraiment, J'ai écrit le scénario pendant le premier confinement et j'étais coincée malheureusement près de l'océan. C'était confiné. Oh, c'est terrible. Mais c'était un hasard.
Bien sûr, c'est le hasard.
Voilà,
évidemment.
C'était le hasard.
Dites.
Et j'étais.
À 3 jours près, c'était le hasard.
Ça fait beaucoup de bien de parler.
Je me suis retrouvée coincée. C'est terriblement snob de dire ça, mais j'étais. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'avais. Devant moi l'océan, j'étais en colère contre ce qu'on disait à l'époque, qui est que l'activité humaine déclenche des pandémies, c'est-à-dire la proximité entre monde sauvage et monde humain favorise les pandémies et on l'a vu, le confinement, c'est l'arrêt de l'activité humaine dans le monde entier la biodiversité s'en est mieux portée, et donc je fulminais pendant le confinement en rage contre l'anthropocène qui me saoule. Et donc ça a orienté un petit peu mon scénario. C'est comme ça que le personnage de Nami s'est affiné. Je me suis dit, il faut un personnage comme ça qui soit à la fois parmi nous et au-dessus de nous, les humains, qui nous englobe, c'est pas quelqu'un qui va nous donner des ordres, mais c'est quelqu'un qui va nous montrer peut-être un peu notre connerie et surtout nous rappeler qu'il faut qu'on soit en relation avec la nature pour être bien, quoi. Voilà.
C'est la même chose aussi pour une dessinatrice, pour être en résonance avec le cadre, avec l'environnement. J'ai la sensation que c'est aussi ça l'histoire de cet album.
Oui, vraiment. Oui. C'est sûr que c'est peut-être que c'est un livre où je dis de nouveau, mais c'est parce que je me le dis à moi aussi qu'il faut apprendre à voir vraiment. Plus on observe et plus on se sent vivant. Je crois plus on porte attention à ce qui est autour de nous, humain, non humain. Et je crois que on peut déjà ne pas déprimer.
Ouais.
Plus on observe les toutes petites choses de la nature ou les grandes choses, ça nous permet de ne pas être là de l'existence. Et puis ça peut aussi, je pense, nous mener vers l'action, c'est-à-dire ne pas être passif. Ouais, ça, c'est ce qui se passe.
La jeune femme et la mer chez Dargaud, on l'a compris, Catherine Meurice a vu dans le Japon le Poitou et on a un digne représentant du Poitou autour de cette table. C'est Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Bonjour Alexis.
Mardi, j'ai participé à une conférence TEDx.
Super.
Voilà, vous savez ce que c'est, les conférences TEDx, hein. Ouais. C'est des conférences inspirantes sur la science, sur le bonheur, dans lesquelles des intervenants t'expliquent que eux, la vie, ils savent, et que toi, tu sais pas, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et souvent, le speech est résumé par une phrase choc, du genre, comment je suis devenu président de la SPA après avoir été abandonné à la naissance, ou c'est pas parce qu'on a tué quelqu'un qu'on peut pas devenir un start-upper à succès. Voilà, des choses un peu comme ça. Et j'en ai beaucoup regardé sur Internet, parce que c'est un peu comme des séances de coaching gratuites, quoi. Donc là, j'étais invité au TEDx de Tours pour conclure la soirée. J'ai dit merci beaucoup, j'étais flatté. D'autant que moi, je conclue assez peu dans la vie, quoi. Et apparemment, c'est à la mode de confier la conclusion d'un TEDx à un humoriste.
Ah bon ?
Marina Rollman l'a fait avant moi.
Ah oui.
Haroun l'a fait avant, Pierre-Emmanuel Barré aussi. Tous à TEDx Paris. Bon, moi, je l'ai fait à TEDx Tours. Ça montre un peu là où j'en suis dans ma carrière.
Non.
Mais j'étais content quand même. Il y avait 800 places disponibles. Tout a été vendu en 36 heures, alors que le programme n'était même pas sorti. C'est-à-dire que les gens ont pris leur place sans savoir ce qu'ils allaient voir. Je devrais peut-être pas dire que je suis là quand je joue mon spectacle. En même temps, je me suis demandé si c'est pas justement parce que le programme n'était pas sorti que toutes les places se sont vendues aussi vite. Je me suis posé la question. Parce qu'au programme, il y avait un talk sur l'informatique quantique. Bon,
okay.
Un autre sur la fiscalité écologique.
Ah, ouais.
Un troisième qui s'intitulait « S'accomplir dans la fluidité, un travail sur l'identité
».
Bon, c'est des sujets intéressants, mais de là à rassembler 800 personnes un mardi soir à Tours, alors qu'il y avait Koh-Lanta, la légende, à la même heure à la télé, ça m'a semblé louche, quoi. En fait, je pense que ça flatte l'ego des gens d'aller à ce genre de conférence. Il y a un côté « on n'est pas bien, là, entre intellectuels ». Ça me fait le même effet quand j'écoute France Culture, tu vois. Je comprends pas tout, mais je suis content. Après, les orateurs sont bons, il faut le dire, c'est bien rodé, quoi. Par exemple, le talk sur l'informatique quantique. Après, moi, j'étais pas la cible. Informatique et quantique, c'est deux mots qui, séparément, m'intéressent pas du tout. Mais alors, ensemble, je fais carrément un rejet, quoi. Ça doit être à peu près le même effet qu'un vegan qui passe devant une boucherie charcuterie, vous voyez. Mais finalement, j'ai écouté et ça m'a plu. Comme quoi, si les véganes voulaient bien se donner la peine de temps en temps de manger un steak ou une bavette, ils changeraient peut-être leur fusil d'épaule, quoi. Selon ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course effrénée entre la Chine, Google et les entreprises européennes pour fabriquer l'ordinateur quantique le plus puissant au monde. Donc on dépense des milliards, mais on ne sait pas à quoi ça va servir plus tard. Ça, c'est incroyable. On dirait des parents qui payent une école de commerce à leur gamin. 8000 euros par an, en espérant que ça servira à quelque chose. Tout ça pour que leur gosse leur dise au bout de 5 ans, en fait, je cautionne pas ce monde capitaliste. Je veux devenir maraîcher, quoi. Ou humoriste. Quel parent mérite ça, quoi. Il y avait un chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle aussi, qui travaille sur les bienfaits de la consommation épisodique du LSD et des champignons hallucinogènes. Ah. Alors, c'était très marrant parce que, il devait réussir à dire que ça pouvait faire du bien sans en faire l'apologie. C'était un peu sa consigne, quoi. Et on voyait qu'il en avait quand même très envie. Du coup, il a dit « Je vous incite pas à en prendre, mais je vous le déconseille pas non plus, quoi. » C'était subtil. Le point commun de tous ces gens, en plus d'être brillants, c'est qu'ils maîtrisent vachement bien leur sujet. Disons que moi, j'ai joué au docteur, mais qu'eux, ils le sont vraiment, quoi. Et j'ai dit oui pour faire la conclusion, un peu comme je dis oui pour aller à jouer à droite ou à gauche. Mais là, on était à l'opéra, il y avait les dorures, les balcons, tout ça. Et je me rends compte que j'ai pas du tout pris conscience de l'importance de cette soirée. Et en arrivant en répétition, je vois que j'ai écrit mon texte, mais je l'ai pas du tout appris.
Ah bon?
Parce que j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai passé pas mal de temps à écrire ma chronique sur la Lettonie la semaine dernière. Avec les spectacles, tout ça. Et ça m'arrive de pas très bien connaître mon texte, mais en général, je me dis, bon, si j'oublie des trucs, j'improviserai, quoi. Sauf que là, je suis le dernier à passer, et je vois que les autres, pendant les répètes, ont très très bien appris leur texte. Et je sais que tout le monde va être au top. Et là, je vis une montée de stress, comme j'ai pas ressenti depuis longtemps. Un peu comme depuis le bac de français, en fait. Et là, je me dis, Alex, si tu fais rien, ça va être le pire moment de ta petite carrière, là. Et j'ai une idée, je me dis, je vais faire une vidéo avec mon téléphone, je me filme comme ça en train de dire ce que je voulais dire et je leur donne en disant voilà, pour être original ce soir, j'ai fait une conclusion en vidéo. Et voilà, si ça vous va, vous la projetez et après je monterai sur scène pour dire 2-3 mots et faire le remerciement. Et là, ils me disent super, ça n'a jamais été fait. L'escroquerie parfaite, quoi. Et le public a adoré. Je crois que j'ai le titre de ma conférence s'ils me réinvitent. Comment faire passer une supercherie pour de l'innovation? Ça doit pouvoir intéresser des gens. Voilà, bonne journée, monsieur là.
Bravo, Alex. La jeune femme et la mère, Catherine Meurice, aux éditions d'Argo. On va recevoir tout à l'heure notre spécialiste Éric Meilleur, rédacteur en chef du magazine Géo, et on va parler avec lui des paysages qui disparaissent, parce que finalement, dans cet album, non seulement on est en effet entraîné dans une forme de conte philosophique qui nous incite à regarder ce qu'il y a sous nos yeux, mais l'art, en l'occurrence cet album, la bande dessinée, votre dessin, c'est aussi une façon de capturer le réel avant qu'il ne disparaissent.
Oui, en effet, il y a cette idée qui était formulée déjà dans mes albums précédents. Il y a ça. Comment faire nous, les humains, on est de passage hein, sur cette terre. Mmh. On va pas rester longtemps. Et comment faire pour tenir le coup, pour accepter cette finitude? Eh bien, peut-être que les artistes sont là pour nous aider, donc saisir les paysages, essayer de les dessiner, c'est ce que font mes personnages dans l'album, ou c'est ce qu'ils essaient de faire. En tout cas, c'est l'idée qui ressort du bouquin, oui, que peut-être que la peinture, le dessin, même la poésie peuvent nous aider à pas tout perdre. Pas tout perdre,
ouais. Mais j'aime pas les gens, mais il faut dire que dans cet album, il y a quand même des planches qui sont fantastiques.
Merci.
Et j'aime pas les gens.
Ni
les invités.
D'accord, ok. On va se plonger, Catherine, dans la bande originale de votre vie. On commence en 87.
On dirait que depuis quelques années, tous dont on entend parler, c'est... FS. FS.
Ah oui.
FS, tu veux. FS.
FS. J'aime bien.
Il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques.
FS.
Et après, on me jette la pierre, tu vois.
Oui, oui.
Mais non, mais tu vois.
Alors, non, mais comment vous avez découvert les frères Jacques, les fesses? Vous écoutiez ça à la maison?
Ah oui, c'était vraiment... Oui, on écoutait tous les frères Jacques et les fesses en boucle. Et encore, je ne vous ai pas choisi la chanson sur les spermatozoïdes qui s'appelle 300 millions.
Vous savez, on peut le trouver facilement.
On peut le trouver facilement, oui.
On va faire une petite recherche.
La confiture, la ceinture, oui. Tout... Enfin, voilà, il y avait beaucoup de Barbara, de Brel et surtout de Brassens à la maison et les frères Jacques. Et ça nous a fait rire, mais avec ma sœur, qu'est-ce qu'on a pu rire en écoutant ces hommes en collant, parce qu'il y avait aussi une allure pas possible. C'était des personnages, c'était des dessins, en fait.
Ouais.
Des personnages tout noirs avec des collants bleus, verts, jaunes, très très graphiques. Non, c'est comme si c'était mes grands-parents, mes grands-pères.
L'humour vient de là aussi, donc dans le foyer familial.
Oui, puis la oui, c'est ça, la rigolade, quoi.
Non, puis c'est de l'humour de dérision, en plus. Là, c'est du troisième, quatrième degré, ce type qui chantait en collant.
Ah oui, mais oui, complètement, avec le chapeau de forme. C'était un clin d'œil au music hall, vraiment au passé. Et puis,
à l'absurde.
Et à l'absurde. Ils sont géniaux, géniaux.
Et vous dessiniez à la maison, et vous n'étiez pas la seule. Votre sœur dessinait beaucoup et très bien, vous le dites. Votre
mieux
père,
que vous,
votre père.
Ah oui, oui, oui. Elle dessinait les chevaux notamment. Elle était vraiment incroyable. Ouais. Alors, moi, c'était des poneys ou. Sérieux pas. Moi, je dessinais les chats. Je dessinais les chats. Ouais.
Vous êtes la dernière. Hein, vous êtes la petite dernière. Ouais. Votre mère aussi savait dessiner, même
non,
si elle ne revendiquait
tout.
Pas.
Pas
vous,
du tout. Non, non.
Vous savez que vous aviez dit qu'elle dans un article dans Le Monde.
Oui.
Sérieux.
J'ai pas dû mentir. Si
qu'elle
c'est
a dessiné un canard en chaussons très réussi.
Oui, c'est vrai. C'est le seul dessin qu'elle a produit de toute sa vie, peut-être. En effet, un canard en chaussons, oui. Ouais. Non, non, elle a toujours dit qu'elle savait pas dessiner. Mon père savait mieux dessiner, oui. Il a fait quelques croquis.
En même temps, quand t'as fait un canard en chaussons, que dessiner après, quoi.
Voilà. Donc, c'est comme le après Mozart. Voilà, le silence du canard en chaussons.
Fin de carrière.
Oui.
Fin de carrière. Comment vous avez appris à dessiner? Qu'est-ce qui a fait que, naturellement, on sait que les enfants, au départ, se mettent à dessiner des choses plus ou moins heureuses. Voilà. Et qu'ensuite, on poursuit ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent incité à continuer à dessiner?
Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai continué à dessiner. Je ne sais pas. J'étais bien là-dedans. Je parlais peu quand j'étais gamine, donc le dessin, parler à ma place et j'étais bien. Je pense que beaucoup de dessinateurs pourraient dire ça, quoi. On se pose pas la question, on continue de dessiner quand les autres s'arrêtent et ça devient un métier. Mais j'ai mis du temps à me dire que ça pouvait être un métier aussi. Ouais.
Et vous dessinez aussi les paysages déjà, enfant?
Oui, je dessinais plein de choses. La maison, je me souviens avoir j'aimais dessiner chaque pièce, les toilettes. J'aimais beaucoup dessiner, vous savez, ce petit tapis qu'on mettait au pied des toilettes. Enfin, je dessinais très, très bien tous les accessoires, les choses comme ça, les éviers.
Celui qui entoure le masque.
Oui, au pied, voilà. J'aimais dessiner, des intérieurs d'épicerie, de choses comme ça, énormément d'objets. Et puis des animaux, déjà, des petits animaux en tenue d'humains, habillés, debout, qui faisaient des de choses.
Et on a 300 millions quand même.
Et oui.
Nous sommes 300 millions massés derrière la porte.
Bien joué.
Trop serré pour remuer, trop tendu pour penser. Une seule idée en tête, la porte. ce sera la ruée. La vraie course à la mort, la tuerie sans passion.
En plus, c'est bien écrit. Magnifique.
C'est même un peu trop.
Voilà, double dose de frère Jacques.
Il y a un petit côté la fille du Père Noël du trône.
Ouais, c'est vrai, oui. Mais il faut les voir, en plus, il faut les voir jouer ça,
en collant.
Ils sont tout ratatinés, ils attendent vraiment, ils guettent l'ovule. Non, mais c'est hilarant. Je comprenais rien quand j'étais gamine, bien sûr. J'entendais juste ces voix graves, solennelles. J'ai compris plus tard.
On passe à l'année 2001.
Londres Adèle.
Pourquoi avoir choisi cette musique, Catherine, pour cette année 2001
2001, je commençais le dessin de presse. Mais j'avais ma vie de femme par ailleurs. Non, j'étais étudiante à l'école Estienne, ensuite chez les Arts Déco. Et j'aimais cette musique, j'ai eu vraiment une période rock indé à ce moment-là, Sonic Youth, Blonde Redhead, etc. Et donc à la fois, je redécouvrais Charles Trenet grâce à Cabu en allant bosser à Charlie. Et puis de mon côté, j'avais mes musiques à moi de jeune.
Oui.
Et j'ai beaucoup dessiné en écoutant cette musique. Ouais.
Vous êtes passée par la fac de lettres de Poitiers, je tiens à le préciser. C'est important dans ce parcours. L'école Estienne, les Arts Déco.
Et deux fois Futuroscope aussi, c'est important.
Futuroscope, première sortie scolaire, obligatoire.
Bien sûr, chez nous. C'est chez nous. Vous avez participé à un concours de dessin de presse, vous avez gagné un prix, vous avez été engagé avec le temps à Charlie Hebdo. Les profs étaient complices de ça et vous autorisaient à sécher les cours pour prendre place dans cette rédaction. Vous avez été embauchée définitivement en 2005. Vous êtes alors la seule femme dessinatrice permanente de Charlie Hebdo, entourée de tous ces grands noms, de toutes ces références que vous deviez connaître depuis que vous étiez enfant. J'imagine, à la maison, on connaissait déjà ces...
Oui, on connaissait Rezer, que bien sûr je n'ai pas rencontré, il est mort en 82. Cabu, Volinsky, bien sûr, c'était
Harakiri, des noms familiers. Toute l'histoire, vraiment le...
Et c'est ce qui m'a aidé à m'intégrer plus facilement à Charlie. Parce que quand on arrivait là-bas, il y avait Volinsky, il y avait Cavana aussi, qui était assez impressionnant. Et j'ai réussi à ruser, c'est comme je savais pas quoi leur dire, j'étais absolument terrifiée. Je les faisais parler de l'histoire de Charlie, et comme je connaissais un petit peu voilà, la presse, l'histoire de la presse indépendante, satirique, Charlie, Harakiri, voilà, je leur disais, et alors ? Enfin, je les faisais parler. Comme ça, ça m'évitait de parler moi, je gagnais du temps, et j'apprenais des choses en même temps. Ça a été ma tactique pendant quelques années.
Quel conseil vous en donnez ?
Quel conseil ils m'ont donné ?
Quel conseil dont vous vous souvenez ?
Des gens, ils m'ont aidé à être moins timide, vraiment, à faire feu de tout bois, quoi. Être hyper observatrice, on parlait de l'observation tout à l'heure, à croquer un peu dans des carnets un peu tout le temps, oui, c'est ça, à faire feu de tout bois, vraiment, écouter ce que disait, mieux écouter, mieux observer, et noter ça dans des carnets, ça pouvait toujours faire une histoire ou être le point de départ d'un dessin.
Ouais. On a évoqué mes hommes de lettres avec Le Renard. J'aimerais qu'on passe à l'année 2016 pour évoquer l'album La Légèreté. Et là, vous avez choisi du classique, c'est du Bach.
Ah, faut l'imaginer en collant son chapeau.
Cette fois-ci, on a un petit chaperon vert dans La Légèreté. Ce petit personnage, c'est vous en grande partie. C'est un album... bouleversant, un album qui a beaucoup compté aussi pour vous parce qu'il intervient après les attentats de Charlie Hebdo. C'est la première fois, un peu avec l'autorisation de Luce, qui commence à dire « je » dans Catharsis et non plus « nous », que vous aussi vous dites « je ». Et c'est un album, on parle de l'art pour garder les paysages, on parle aussi de l'art comme une tentative d'aller mieux, de se soigner, de rester debout.
Ah oui, de l'art comme une trousse de secours, véritablement. Mais ça, je l'ai découvert en faisant l'album La Légèreté. Je l'ai découvert en allant à Rome. J'avais une obsession, c'était je voulais voir Rome. Je voulais voir les ruines de Rome. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait après les ruines, quoi. Ouais. Parce que Charlie, c'était une ruine, malheureusement. Et donc voilà, La Légèreté raconte cette reconstruction à travers les arts, qui n'était pas préméditée, mais qui a été vraiment une surprise, quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a aidée. Et pendant cette année 2015, évidemment, et même 2016, je n'ai pas pu écouter de musique. Vraiment, c'était absolument impossible parce que tout avait explosé dans ma tête, quoi. Donc plus rien ne pouvait rentrer. J'avais souffert d'amnésie post-traumatique, donc. Ouais. Impossible d'écouter de la musique. Et en allant à Rome, à la Villa Médicis, c'était peu de temps après les attentats du Bataclan. Il y avait aussi évidemment cette deuxième secousse absolument terrible. J'ai rencontré les artistes qui étaient sur place, pensionnaires, et qui m'ont redonné aussi le goût du travail, du dessin. Et parmi ces pensionnaires, il y avait un pianiste japonais. Kenji Sakai, voilà, qui était là, et qui était là pour un an, donc pour travailler. Et on l'entendait répéter parfois dans les jardins. Enfin, c'était absolument délicieux. Et un soir, il a donné un petit concert, voilà, pour les pensionnaires. Donc, on était une dizaine à l'écouter. Et il a joué cette chaconne de Bach. Et ça a déclenché quelque chose en moi. Je me suis souvenue que je connaissais cet air, je connaissais cette musique. Enfin, la musique est de nouveau rentrée. Voilà, il y avait une autorisation cette fois-ci, je pouvais la faire de nouveau rentrer. Et j'ai recommencé à écouter de la musique après. Voilà. Et ça m'a. Je crois que cet air de Bach et ce pianiste m'ont aidé à retrouver un petit peu de mémoire. Voilà,
ouais. L'art soigne aussi, l'art fait du bien.
Oui.
La jeune femme et la mère aux éditions d'Argo, on continue d'en parler avec vous, Catherine Meurice, et on accueille Éric Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Géo, et d'ailleurs, depuis avant-hier en kiosque, il y a un numéro sur le Japon, je vous le donne en mille, loin des
on
villes.
On s'est pas concerté.
C'est bien fait quand même, tout ça, mais j'aimerais qu'on parle plus globalement, en fait, des paysages qui nous entourent et qui disparaissent. Ça, c'est véritablement une réalité. Éric Meyer.
Oui, il y a beaucoup de paysages qui disparaissent. Il y a malheureusement tous les jours sur France Inter, dans les journaux, dans les magazines, y compris le mien, le nôtre, des photos qui nous secouent. Oui. Alors ils disparaissent pas tous à cause du changement climatique. Hein. Ils disparaissent aussi sous l'emprise de l'action dévastatrice de l'homme qui cherche des énergies. Hein. Mmh. Nous sommes très gourmands en énergie.
Qu'est-ce qui disparaît concrètement? Quel paysage, par exemple, on sera plus en mesure de voir très très prochainement?
On l'a bien vu cet été, hein, quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup de. C'est bizarre cet été. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont rapprochés, enfin, de ce phénomène. Les incendies en Californie. Oui. Et puis surtout, c'est venu en Europe, quoi. C'est un peu la première fois. Parce que le problème du changement climatique, c'est que c'est une notion un peu, bon, un peu, pardon, intellectuelle par moment. Et les gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il y a une manifestation concrète qui se passe toujours. Pareil, hic et nunc, un proche chez eux et maintenant. Et donc, pour la première fois, on a vu en Europe, alors c'était pas vraiment en France, c'était en Allemagne, c'était en Belgique, des inondations, des tempêtes, etc. Voilà, donc c'est assez important ce qui s'est passé cet été.
Donc, les forêts qui disparaissent, mais quel autre type de paysage sur les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y en a 241. 62 sont désormais menacés par le changement climatique contre 35 en 2014. Oui, ça a quasiment doublé.
Oui, il y en a tout le temps qu'ils sont menacés. Venise, par exemple, est le dernier qui était... Bon, ils ont réussi, je n'ai pas vraiment suivi les derniers événements, mais je crois qu'ils ont réussi à se sauver de la chose, c'est-à-dire ne pas rentrer sur la liste des sites menacés, ou en péril, comme on dit. Mais oui, il y en a tout le temps. Le premier, c'est le corail. Le corail, c'est l'élément le plus fragile de la planète parce que, alors, il faudrait interroger des vrais spécialistes du corail, mais en gros, si la température des océans monte de très très peu, je crois qu'à un degré près, et avec un taux d'acidité qui varie de très peu, le corail meurt.
Est-ce que le tourisme est à mettre en cause ?
Ouais, alors... Moi, j'aime. Alors, bien sûr, le tourisme prédateur, ça existe. Hein. Personne n'a envie de voir. Je ne sais pas. Je parlais tout à l'heure de Venise. Voilà, c'est bien évident. Cela dit, quand on regarde l'ensemble du problème du réchauffement climatique, on fait un joli camembert. On dit qu'est-ce qui pèse lourd dans le game, comme on dit. On va quand même d'abord s'occuper des centrales à charbon. Ça pèse pour 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on est sur d'autres points qui sont plus... Bien sûr, il faut régler les problèmes du tourisme, mais réglons d'abord le problème des centrales à charbon, on aura fait un immense pas la résolution du problème. Vous avez un autre point qui n'a rien à voir avec le tourisme, qui est nous tous, là, ici, la viande. La viande, par exemple, ça pèse à peu près pour, 12-14% du total des émissions de gaz à effet de serre. Donc on arrête de manger de viande et on arrête de chauffer au charbon, on aura fait un immense pas avant...
On a froid.
Comment
hein? On a faim et on a froid.
On peut se chauffer avec autre chose que du charbon.
Vous voyez des pays comme l'Allemagne qui sont mis à rouvrir les...
Funeste erreur.
Funeste erreur quoi
De rouvrir des centrales à charbon. Ouais. C'était tout le monde plein de gens sérieux disent que c'est une erreur.
Donc parmi les solutions, on arrête le charbon, on mange moins de viande ou en tout cas on limite notre consommation. Non mais évoquons les solutions parce qu'on est en train de faire un état des lieux catastrophique.
Vous êtes optimiste ou pas?
On n'est jamais optimiste avec la COP.
La COP, si on regarde le passé, on peut s'apercevoir qu'il y a eu, je ne sais pas combien, de COP. C'est la 26, là. Donc je ne sais pas s'ils ont compté vraiment de 1 à 26, mais bon, bref, il y en a eu plein. Et on s'aperçoit que si on regarde la courbe des émissions de gaz à effet de serre, elle a continué de monter après la COP 15, 16, 17, 18. Enfin, ça n'a rien changé, c'est beaucoup de discours. Cela dit, ça c'est le passé. Maintenant, la préoccupation devient quand même très importante. On peut peut-être espérer. Moi, je ne suis pas parmi les chefs d'État. Bon, déjà, le Chinois qui ne vient pas, je crois, à moins qu'il ait changé d'avis.
On a surtout l'impression que ce sont les citoyens qui se mobilisent au niveau local, qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont créées pour essayer de préserver soit le littoral, soit les forêts, soit lutter pour que les animaux soient davantage respectés, comme si au niveau supérieur, au niveau étatique, on était un peu paumé.
Oui, bon, ça c'est vrai que les citoyens se mobilisent. D'ailleurs, ils se mobilisent souvent pour des choses beaucoup plus concrètes que... un taux de croissance des émissions de gaz à effet de serre. Ils se préoccupent d'une rivière polluée, d'une forêt qui va mal, je ne sais pas, de ce genre de choses. Et ça, c'est très très bien. Cela dit, il ne faut pas non plus négliger, je reviens à la COP26, négliger l'action de l'État. On ne se sortira pas du problème simplement en disant c'est les citoyens qui vont résoudre le problème. Il y a quand même des choses très importantes à faire au niveau des investissements publics, au niveau des règlements même. Il faut passer par des phases réglementaires. Donc, le citoyen tout seul dans son coin, même si c'est extrêmement sympathique et souvent bien et ça rend les choses concrètes, ne résoudra pas la question du changement climatique. Il faudra l'intervention des États et aussi des entreprises, des inventeurs, des scientifiques. Enfin, faut tout le monde s'y mettre.
Merci beaucoup Eric Meyer d'être venu dans la bande originale.
Pour cet optimisme vous
êtes rédacteur en chef.
Et cette déconne.
Je vais l'écouter back tout de suite.
C'est la Traviata là qu'il faut mettre.
Et le dernier numéro de Géo est consacré au Japon. Merci Eric Meyer. Tom Villa.
Oui.
Il est temps de remettre des prix peut-être.
Ah bon, maintenant?
Allez, c'est parti.
Jingle. Une semaine un petit peu molle, oui, c'est les vacances pour tout le monde. On a eu très peu de breaking news, juste des infos qui nous permettent un débat de 10 minutes au balto. Du coup, cette semaine, dans la catégorie de l'info molle de la semaine, les nommés sont. Premier nommé, un joueur du PSG qui serait tombé par hasard sur une prostituée au bois de Boulogne et qui s'est fait voler, par contre, ça c'est vrai, son portefeuille par le travesti. Voilà, alors évidemment, on ne jugera pas les penchants de ce monsieur, juste c'est vrai que c'est dommage, un joueur du PSG au bois, on notera quand même que c'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on peut pas être radin. Deuxième nommé, la reine d'Angleterre, 95 ans, qui a eu un petit coup de mou niveau santé, qui a préféré se reposer plutôt que d'aller à la COP26. Elle va être relou la prochaine saison de The Crown. Hein. Dernier nommé, Halloween. L'année dernière, c'était raté, c'était bizarre. Je vous rappelle quand même qu'il y avait un couvre-feu et qu'on rentrait dans le deuxième confinement il y a pile poil un an.
Ouais.
C'est-à-dire que les enfants qui sonnaient chez nous, bah, c'était les nôtres en fait. Hein. Et le grand gagnant dans la catégorie de l'info molle de la semaine est...
Zaza 2.
Halloween.
Ah non.
Dimanche Halloween. C'est quand même la preuve que les anglo-saxons ont gagné la bataille idéologique. T'avais le combat entre le 1er novembre, on pleure et on fleurit des tombes, et ou alors on fait la teuf bourrée déguisée en joker. Bon bah, l'issue du combat était facile à deviner. Hein. C'est con, la religion catholique a pas bien intégré l'importance du whisky coca dans les fêtes. Hein. C'est vrai, on aurait mieux résisté à Halloween. Surtout que moi, ma mère, elle m'a toujours dit quand j'étais petite de pas parler aux inconnus et si jamais ils me donnaient des bonbons, de les refuser. Mais là, on dit carrément aux gamins d'aller directement chez des inconnus pour en réclamer. Bah ouais, on devrait être un peu jaloux qu'une tradition américaine ait pu s'implanter comme ça en France. Pourquoi ça marche pas dans l'autre sens? Je voudrais dire, on pourrait exporter nos traditions. Pâques, alors Pâques c'est aux États-Unis, mais c'est moins fou que déjà eux, c'est le Easter Eggs.
Ah.
C'est pas une poule qui distribue des œufs en chocolat, c'est un lapin.
Ouais.
Et oui, donc c'est quand même la preuve qu'ils sont quand même très bons. Des œufs, un lapin, je veux dire un lapin qui a lâché des œufs dans le jardin, vu que ça pouvait faire un peu chasse aux crottes, et bah du coup c'est des coques en plastique qui renferment des bonbons. Non mais c'est vrai. Et pas d'immenses cartons, autant qu'en France en tout cas. En même temps, on va dire à des petits gros d'aller chercher des œufs alors qu'ils peuvent se les faire livrer par Amazon. Sans bouger de chez eux. Qu'est-ce qu'on a comme tradition française qui a bien marché aux États-Unis? C'est l'exil fiscal, voilà. Mais franchement, quand on y pense, faire la teuf au moment du jour des morts, c'était pas gagné. On n'a pas l'habitude d'une telle franchise. Ils sont forts, ces Américains. Toujours un petit coup d'avance. Halloween, les candidats racistes sans filtre. Ils sont vraiment forts. Alors, dimanche soir, c'est la soirée d'Halloween. Si vous n'avez pas trop d'idées comment vous déguiser, BFM TV a des conseils à vous donner. Alors, malheureusement, ils ne conseillent pas le costume gilet jaune. Pour Halloween, à l'Elysée, vous pourriez faire un malheur. Non, BFM TV nous recommande le déguisement Squid Game. C'est une combinaison rouge, une passoire sur la tronche et c'est parti. Donc si votre père fait de l'escrime et est livreur chez Darty, vous avez déjà le déguisement. C'est là qu'on voit que les saisons passent. Il y a deux ans, c'était Casa des Papel. Aujourd'hui, c'est Squid Game. L'avantage, c'est qu'on change juste le masque et c'est le même déguisement. BFM TV est formel, c'est le déguisement de l'année. Et c'est vrai, combien de fois on a vu des déguisements approximatifs avec la question de « Et toi, t'es déguisé en quoi ?» Non, c'est vrai, généralement, qu'on demande, c'est que c'est plus la foire fouille que Disney. Tiens, Daniel, t'es déguisé en quoi? T'es en SDF?
Non, Jack Sparrow.
Ah pardon, autant pour moi. Et Morgan, t'es en qui?
Moi je suis pas déguisée, je suis infirmière, connard. Ça fait 2 ans que j'ai pas d'argent.
Voilà, très bien. Alors le mieux, voilà, c'est de mettre un costume gris mal taillé. Si un mec de gauche te demande en quoi t'es déguisé, tu dis Eric Zemmour. Si c'est un mec de droite, tu dis que t'es Yannick Jadot. Pour les femmes, je conseille le duo jean blouson de cuir avec un petit dossier sous le bras. C'est le déguisement Élise Lucet. Hein. Si vous êtes invité dans une fête du CAC 40, ça peut faire un carton. Et n'oubliez pas non plus que dimanche, en plus Halloween commence la COP26, donc vous gourrez pas s'il y a des mecs habillés en buisson qui sonne chez vous. C'est pas pour les bonbons ou c'est pas cet élève, mais c'est Greenpeace. Allez, bonne journée.
Merci Tom Villa.
Tom Villa demain soir à Saint-Etienne. Oui. La chance, et le lundi à Paris, tous les lundis à la Nouvelle Ère. Ah, tiens, j'en profite, j'ai oublié tout à l'heure pour Alexis Laurent Signol. République, les jeudis et samedis à 21h15.
Et Tanguy Pastureau est avec nous. De quoi on parle dans un instant, Tanguy?
Bonjour, je veux parler des selfies. Il tue 380 morts en 13 ans officiels.
Hein, il retue les morts. Putain, voilà. C'est fort.
Hein. Il y a des chutes dans des ravins, tout ça.
Enfin. Oh. On est ensemble jusqu'à 12h30 avec Catherine Meurice sur France Inter. De la bande originale avec Morgan Cadillan, Tom Villa, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, notre invité,
bonjour,
Catherine
Daniel.
Meurice.
Bravo. Bravo madame.
Catherine.
Meurice.
Catherine Meurice avec nous à ce micro pour nous parler de cet album La jeune femme et la mère. Catherine Meurice, je ne l'ai pas précisé, qui a été élue à l'Académie des Beaux-Arts l'année dernière, première dessinatrice de bande dessinée à devenir membre de l'Institut. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris la nouvelle? Vous connaissant, ça vous a fait rigoler?
Oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Bon, c'était pas une... Enfin, si, c'était une surprise, mais disons que j'avais postulé quand même. Oui. On m'a demandé de candidater, c'est pas tombé du ciel comme ça.
On vous demande de...
Oui, on me demande. Demander ouais, exactement. De... Ah, oui. J'ai été courtisée par un académicien. Oui, qui est venu 15 jours avant le vote pour me dire voilà, l'académie est très très ouverte, elle aimerait beaucoup la bande dessinée intègre l'institut.
C'est donc, incroyable parce que la bande dessinée très très longtemps a été considérée comme un genre pour les enfants, pas pris au sérieux du tout, et là qu'on vienne vous voir pour vous dire. Il y a une volonté de renouveau quand même.
Oui, bien sûr. Oui. Les institutions s'y intéressent beaucoup et tant mieux. Et c'est vrai qu'en arrivant à l'académie, le secrétaire perpétuel et d'autres confrères m'ont dit non mais nous on aurait adoré que Bretéché soit élu, on aimerait que Sempé soit avec nous, on aurait aimé Grézer soit académicien. Bon voilà, ils avaient aussi quand même une petite culture harakiri. Ouais. Ça c'était une belle surprise. Donc c'est.
Mais qu'est-ce qu'on y fait à l'institut?
Qu'est-ce qu'on y fait? On travaille, on se réunit comme on peut. Hein, on a tous des
vous faites des zooms,
des activités. On a fait énormément de zooms. Ouais, on a fait des zooms et on se réunit chaque semaine. On discute on a des points d'actualité qui concernent la culture. On peut très bien parler du rapport Racine des auteurs comme de résidences. L'académie est en train de créer des résidences pour les artistes. En fait, j'ai découvert que c'était très tourné vers les artistes et la jeunesse. Donc ça, c'est super. Il y a énormément de fondations que l'académie héberge qui aident les artistes, qui peuvent les financer, qui peuvent donner des prix qui sont dotés, et ça c'est assez rare, en tout cas dans la bande dessinée, ça n'arrive quasiment jamais, des prix dotés, alors que les auteurs sont souvent en difficulté. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore, et c'est passionnant. Ouais.
Et c'est aussi peut-être la possibilité d'ouvrir la porte à d'autres dessinateurs de bande dessinée au sein de l'Institut, maintenant que vous avez mis le pied dedans.
Oui, oui, bien sûr. Non, je veux rester la seule.
Ah
non,
oui,
c'est pas... non, bien sûr, c'est le but. non, c'est le but, oui. Ça, il faut que je recrute des congénères. Non, c'est bien sûr, l'académie est ouverte à ça, et après ça prend du temps parce que, comme vous le savez, les sièges qui se libèrent, ce sont ça veut dire que les académiciens sont décédés.
Vous occupez quel siège d'ailleurs?
Alors moi, je suis en section peinture. J'occupe le siège du peintre Arnaud d'Autrive, et sinon plus si on remonte plus dans le passé, le siège du peintre Giraudet.
D'accord.
J'ai pas le siège de Delacroix. J'étais pas loin.
Ouais.
Mais j'ai
c'est
Giraudet.
Passé à ça, hein.
Voilà. Comment?
C'est passé à ça.
Et c'est passé à ça.
Il y a des escaliers éventuellement à l'institut. Moyen de faire tomber un voisin.
Oui, voilà.
Ouais, ça glisse. Voilà, pour avoir de la croix, je pense que c'est ça.
Je crois que c'était une observation architecturale. Il y a des escaliers là-bas, je crois.
Oui, une très belle coupole.
Très belle coupole où on vous retrouve. Il n'y a pas moyen, nous, en tant que public lambda, d'assister à des séances.
Alors,
c'est
discussion. Non, justement, on en parlait il y a peu de temps. On aimerait que l'académie soit beaucoup plus ouverte parce qu'on connaît très très mal cette institution. On connaît évidemment l'académie française et les autres académies sont plus discrètes alors qu'elles sont très actives. Donc, c'est en cours, oui.
La jeune femme et la mère aux éditions d'Argo de Catherine Meurice. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
C'est pas possible.
Hier, je lisais Le Figaro. J'adore ce journal. Parce qu'il nous aime pas trop. Et comme je ne m'aime pas trop non plus, je trouve que ça nous fait un point commun. J'ai fait ça ici, près de la maison de la radio, dans le 16e arrondissement, parce qu'on est tous là à se la jouer gaucho, mais en fait, on vit dans un des coins les plus huppés de France. Ouais. On ne croise que des gens en Loden et des vieilles à Yorkshire qui, quand on leur dit Christiane Taubira, font une croix avec les doigts en criant arrière Satan. Le gauchisme, c'est une posture. Il suffit de regarder le nombre de gens de gauche à Paris qui ont un clic-clac et le nombre de migrants en train de crever sur l'herbe le long du périph. Mais bon, comme on drague plus facilement avec un t-shirt du Che qu'avec un t-shirt du Bruno Retailleau, tout le monde fait semblant d'y croire. Donc, je lisais Le Figaro, les pages échos, en quête d'une interview de Bruno Le Maire vantant les résultats faramineux de son plan de relance, parce que j'adore l'onanisme en costume, c'est quand même plus classe que le X. Puis les pages culture. Ah, Anne Fulda, ce port de tête altier, ce regard Cyrillus. En un sourire, elle pourrait convertir Philippe Poutou au libéralisme. Enfin, je suis allé sur les pages d'actu générale, celles qu'on lit plus depuis qu'il y a BFM. Et là, je suis tombé sur un article intitulé « Près de 380 personnes sont mortes en prenant un selfie depuis 2008, selon une étude ». disant que j'ai fondu en larmes, en hurlant « Pourquoi n'ai-je pas vécu à une époque moins conne ?» C'est vrai que j'aurais adoré, par exemple, vivre à la Renaissance. On faisait du cheval, on croisait Ronsard, qui pouvait être vexant. Hein. Il vous disait « Ta rose, bébé, elle est bientôt fanée », mais bon, ça valait Bouba. Hein. Et quand François Ier voulait faire un selfie, il devait convoquer un peintre, ça prenait 7 jours, il regardait le résultat, il disait « Je sais pas, tu peux pas mettre un filtre ». L'autre lui ajoutait des oreilles de chat, mais il fallait 23 heures de plus. Bon, c'était contraignant. Ce qui fait qu'à part le roi et deux, trois paysans qui s'étaient fait un petit boule bien ferme à force de se taper les travaux agricoles, bon, personne n'avait son portrait. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir leur tête partout. On peut plus voir une photo de monument sans la tronche de ta sœur en travers. Et ça gâche tout. Je veux dire, si Eiffel avait su que des tas de cons, avec la perspective ressemblant avec leurs doigts de toucher le haut de sa tour,
oui,
hein, il aurait dit à ses gars, bon, les gros, on part sur un abri de jardin et pourri, hein. Je veux que dans 7 heures, il n'en reste rien. Il y en a marre des selfies. Ça ressemble aux photos du nain de jardin dans Amélie Poulain, mais sans poils. Parce qu'on nous parle de fin du genre, mais la plupart des femmes n'ont toujours pas de barbe. Hein, ça est la mode des gens qui font des photos de leurs plats au resto. Mais parfois, vous n'arrivez pas à distinguer un tiramisu d'une influenceuse beauté qui serait tartinée trop de fond de teint sur la gueule. Et donc, en plus, le selfie peut être mortel. En 13 ans, 379 décès. Ah bah ouais, vous êtes à être tard. En haut de la falaise, en train de crier, j'en place une pour toi, Arsène Lupin. Vous faites un selfie pour mieux voir la mer. Hein, cette grande mare dégueu pleine de microplastiques, vous reculez. Et là, paf, vous finissez 30 mètres plus bas. Sur la plage, certes, mais pas en état d'apprécier le reste du week-end sur la côte. Hein, une étude publiée dans une revue de médecine espagnole cite, mais alors plein d'exemples. En juillet, une influenceuse chinoise, donc sûrement Xi Jinping en legging avec une perruque, hein, parce que Internet en Chine, c'est à lui. Hein, parfois, il donne des petites claques à sa livebox en lui disant « Ah, t'es ma petite chose ». Donc, cette influenceuse, Sophia Cheng, est tombée quand même depuis le haut d'une cascade. Elle est morte, hein, juste pour faire un selfie. Si encore elle avait tourné une pub pour Tahiti Douche, elle serait morte pour l'art. Mais là, non. L'étude a même recensé des lieux où l'on meurt le plus. Alors, il y a les chutes du Niagara. Là, si on tombe, ça pardonne pas. Pena Beach, au Brésil. Alors, c'est une plage toute simple. Mais les gens se noient. Comme ils font des selfies, ils oublient de nager et coulent. Les poissons sous la flotte sont effondrés. Hein, ils disent, OK, clairement, Madeleine, la plus bête des dorades du banc de poissons, est supérieure aux gens de cette espèce. Il y a aussi le Taj Mahal en Inde. Les touristes qui se prennent en photo ratent les marches et donc se tuent. Hein, en fait, le selfie, c'est une forme de sélection naturelle. Comme nous n'avons plus de prédateurs, c'est l'iPhone 13 qui régule les populations. Hein, Tim Cook, le boss d'Apple, c'est l'équivalent en propre du chasseur de la Haute-Marne qui bute des sangliers. Alors, l'étude précise aussi quelles sont les raisons des décès dus au selfie. Donc, en un, c'est la chute d'un toit, du haut d'un ravin, des épaules de Teddy Riner, si on est un peu pote avec lui. Bon. Ensuite viennent les noyades. Hein, on dit aux gens qui se noient, mais lâche ton téléphone. Enfin, ils répondent jamais. Par contre, mets la photo de mon autopsie sur Insta, mon mot de passe est 1, 2, 3, 4. Et donc, ils se noient. Puis viennent les électrocutions. Alors, typiquement, le téléphone en charge tombe dans l'eau du bain tandis qu'on fait le selfie. Donc, ça fait bzzz, vous clamser. Hein, et puis, vous montez au paradis. Et là, Clo-Clo vous dit, sérieusement, 43 ans après, vous en êtes encore là, mais je suis mort pour rien, les loulous. Et enfin, la dernière cause de décès est due aux animaux sauvages. Vous êtes en montagne, vous faites un selfie, quand soudain derrière vous déboule un ours brun. Si vous avez des poils de dos qui sortent sur la nuque, il vous prend pour sa femelle et vous tue en tentant de vous faire un câlin. La règle ultime, c'est de ne jamais tourner le dos à la nature. Même dans une clairière à la cool, il peut toujours y avoir un garde forestier en rude qui se croit dans Lady Chatterley et se met à foutre du Marvin Gaye sur une mini enceinte en se disant qu'avec de la saule, il est sûr de coucher. Le selfie tue. Donc gardez vos tronches pour vos proches. De toute façon, à part Gaspard Ulliel et Elisabeth Guigou, les humains sont laids. Sinon, à Douai, dimanche, une jeune fille de 21 ans est tombée du capot d'une voiture en marche alors qu'elle tournait une vidéo. Oh, ça peut prêter à rire, mais elle est gravement blessée. Pour une vidéo, un selfie, combien de familles brisées, quoi. Donc réfléchissez, posez vos 06 et lisez plutôt Ronsard.
Bravo, Tanguy Pastureau.
Et Tanguy Pastureau, le 27 novembre, au casino de Deauville pour son spectacle irrésistible, bien entendu.
Merci. Et le lendemain, chez SFR.
J'allais vous proposer de faire un selfie à la fin de cette émission, Catherine, mais ça y est, je renonce. Je renonce.
Bon, après, vous êtes ici, à plat, c'est de la moquette.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, il y a peu de risques.
C'est moins dangereux. Mais moi, je vous incite surtout à aller acheter La jeune femme et la mère aux éditions d'Argo, Catherine Meurice. C'est un album enchanteur pour moi, où j'ai découvert à la fois des éléments de la culture japonaise que je ne connais pas du tout, non seulement ce tanuki, mais aussi cette jeune femme qui a une sorte de présence ensorcelante, qui est là, qui plane au-dessus de tout cet album, qui a conscience des éléments, qui a conscience de la nature, parce qu'au final, c'est aussi ça, l'idée de se dire que cette nature, elle fera sans nous, quoi qu'il advienne, et elle nous dépasse.
Oui, exactement, et c'est vrai que le Japon est presque un prétexte en fait pour raconter cette histoire où il est question de nature, parce que Le Japon, c'est vraiment le territoire qui a vraiment pas de bol, hein, beaucoup de séismes, de tsunamis, ouais, etc.
Ils
sont obligés de vivre avec. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de notre ignorance du Japon, et on a beaucoup de clichés. Et on dit tout le temps que les Japonais sont très proches de la nature. Ouais. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est assez paradoxal parce que c'est un pays très très bétonné. Même la campagne paumée ou les petites îles, on y trouve du béton. Il y a d'énormes pansements de béton pour éviter les coulées de boue. Il y a des murs anti-tsunami. Il y a des choses assez impressionnantes.
Et que je raconte.
Et il y a aussi autre chose qui concerne plus la spiritualité, mais quand on dit que les Japonais vont rendre visite aux arbres, souvent ils vont rendre visite à la divinité qui est à l'intérieur de l'arbre. Donc, ouais, il s'agit pas que des Japonais, en fait, il s'agit de nous tous. C'est là où je dis que c'était un prétexte, c'était vraiment la métaphore idéale pour parler de nous tous, y compris occidentaux, et notre rapport à la nature, où parfois on regarde plutôt ce qui nous ressemble dans la nature, on oublie de regarder que la nature est autre chose et qu'on en fait partie et qu'elle est au-dessus de nous. Ouais, ouais.
Et pour capter cette nature, il y a le dessin, mais il y a aussi les mots qu'on pose dessus. Alors il y a votre comparse dans cet album, lui aussi, ce peintre qui cherche l'inspiration, qui parle de ce qu'il voit à travers des haïkus. Est-ce que vous êtes essayé au haïku? Alors dans l'album, vous vous moquez de lui, vous le défiez avec vous moquez vraiment clairement.
Moi, je me moque de moi aussi parce que ce personnage, c'est un peu moi. Je suis incapable de faire des haïkus. J'ai essayé en faisant rimer, tanuki, qu'est-ce qu'on a dit, rouston, non, je sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure.
Robignol,
bon voilà, alors je cherchais des rimes en hall, mais en fait ça ne marche pas, puis d'ailleurs faut pas faire rimer avec les haïkus. Non, non, c'est difficile de trouver 17 syllabes qui forment un tout plein de profondeur.
Non, d'ailleurs, le peintre nous explique qu'on a un rapport, nous occidentaux, à une poésie assez figurative et explicative, ce qui n'est pas du tout le cas des haïkus. Il remet en question notre capacité à faire des haïkus même.
Oui, c'est ça. Il y a une petite réflexion sur la poésie où, en effet, dans les haïkus, souvent l'humain n'est pas présent. C'est très reposant.
C'est pour ça que vous ne voulez plus dessiner d'humains aussi.
Ouais, exactement. Oui. Ouais, juste des feuilles et des tanuki.
Donc cet album de Catherine Meurice, La jeune femme et la mer, chez Dargo. D'autres infos dans le monde de la culture. Savez-vous que le retour de Michel Houellebecq vient d'être annoncé? Mais sous quelle forme?
Pâte à modeler.
Cinéma. Liquide.
Il va au Grand Rex.
Dentier. C'est Morgane qui est bien. Il va déclamer de la poésie au Grand Rex, au Rex Club, pardon, les 7, 8 et 10 novembre. Il y a 5 représentations de ce spectacle. Existence à basse altitude, voilà le titre. Les places vont bientôt être en vente.
Mais c'est déjà produit puisqu'il avait fait des concerts. Absolument. Avec Bertrand Burgal.
Il a un petit côté performeur, Michel Houellebecq, et il sait bien manier aussi la communication, parce que faire un retour comme ça, c'est pas simplement un roman. Est-ce que vous êtes cliente de ce genre de performance? Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
Ah oui, et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé le disque qu'il avait fait avec Burgala.
Présence humaine.
Ouais. Mmh.
Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Un conseil lecture? On parle de Houellebecq.
Un conseil lecture, en ce moment je lis Déborah Lévy, cette Britannique super drôle, qui parle d'elle, de son boulot d'écrivain, elle est très drôle. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Richard Powers, cet Américain qui a écrit un très beau roman sur un père et son fils et la nature, voilà encore elle. Je lis de tas de choses.
Vous lisez pour le plaisir ou vous lisez intéressé aussi? Est-ce que vous parvenez à lire juste pour vous sans penser au projet suivant?
Oui, ça m'arrive, mais quand j'ai une idée de livre en tête, ça, je n'y arrive plus. Tout ce que je vais lire va nourrir, et je vais lire de la littérature comme des essais, comme je vais compulser des livres d'art. J'ai besoin de voir des images. Je vais pas forcément lire tout ce qui se fait tout ce qui s'écrit dans les catalogues, parce que c'est parfois trop d'érudition peut nuire à mon travail. Il faut que je reste très approximatif. J'espère que ce soit un petit peu drôle.
Et les musées aussi, ça fait partie.
Et les musées, oui. Balader dans les musées, n'importe quel musée.
Vous avez été gardienne de musée
quand j'étais étudiante,
en
job d'été au Louvre et à Orsay. C'était miraculeux, c'était absolument génial. Surtout les mardis, jour de fermeture du Louvre, où on était seul face à la Vénus de Milo, etc.
Et qu'est-ce qu'on regarde les jours où on travaille?
Les fesses de la Vénus. Les jours où on travaille.
Ouais, les jours où on travaille, on est censé plutôt surveiller le public plutôt que les œuvres.
Ah oui, et alors c'est
dur ça.
d'être... Non, c'est très très drôle, parce que parmi les publics, il y a vraiment, mais il y a des fous, quoi. J'aurais dû prendre des notes, j'ai oublié beaucoup de choses, mais il y a des givrés, c'est une anecdote ou 10 anecdotes par jour.
Qu'est-ce qu'ils font, par exemple?
Il y en avait un, je me souviens, il venait me voir régulièrement, il voulait prendre, c'était son gag favori, il arrivait près d'une énorme vase, comme il faisait 10 mètres de diamètre, un truc en marbre. Il arrivait, il était là, je vais le mettre dans mon salon, et il arrêtait pas, mais c'était son gag récurrent, c'était complètement débile, je vais l'emporter avec moi, le truc faisait 10 tonnes, enfin bon. Tous les jours, je vais le mettre dans mon salon, ce vase, ça va être bien pour la déco. Bon, nul. Voilà, il y a des trucs comme ça, nul.
Et vous m'avez pas reconnu.
J'aimais bien cette blague. Et voilà, donc c'est ça, mais non, puis il y avait aussi des gardiens très rigolos. Il y en avait un qui avait toujours son album photo de famille sous le bras, et qui, enfin bon, bref.
C'est montrer
des choses très étonnantes.
Un vrai échantillon de la population.
Exactement. Ouais.
Vous avez un lieu de prédilection au musée à Paris, il y a un endroit en particulier où vous aimez aller?
Oh, il y en a beaucoup, mais j'ai découvert sur le tard la Fondation Custodia, qui est une, oui, voilà.
On connaît pas bien,
qui est rue de Lille, pas loin de l'Assemblée nationale, et qui est pas toujours ouverte, mais alors quand elle présente des expositions, c'est assez extraordinaire. C'est un lieu assez tranquille ou, voilà, ou qui n'est pas aussi fréquenté que Orsay ou le Louvre. Et j'ai vu des expos vraiment d'une richesse et puis très inspirante. Vraiment, j'y retourne plusieurs fois pour prendre en photo. C'est horrible, hein, mais je prends en photo les tableaux parce que c'est comme des prises de notes, fait. Donc je
ramène un peu
comme
avec
ça. Ouais. Et je m'en sers toujours. Ouais.
Autre question, quelle est la particularité du dernier Lucky Luke qui vient de sortir?
Alors, Il ne fume pas.
C'est pas un vrai album de Lucky Luke.
C'est un truc
celui
de droit,
de Mathieu Bonhomme ou de Ralph Koenig ou
de Ralph Koenig. Ah, oui. Alors,
c'est juste pour citer Mathieu Bonhomme.
C'est un collègue dessinateur.
Cheval a été remplacé par une...
Il a le droit d'utiliser quelque chose et pas l'autre.
Alors, en fait, l'auteur a eu l'autorisation des ayants droit pour utiliser le personnage. Mais qu'en a-t-il fait?
Il l'a mis dans une autre histoire.
Voilà. Et une histoire
Astérix.
De... Qu'est-ce qu'il... Il a un peu modernisé. Une histoire de cowboy, mais de cowboy.
De l'espace.
Pardon?
En string? Je sais pas.
C'est vestimentaire. Cowboy gay, non?
De l'espace.
Ouais. De cowboy gay. Absolument. Ça s'appellera Choco Boy. Lucky Luke à la garde de 5 vaches laitières dont le propriétaire désire faire découvrir à l'Amérique son délicieux chocolat suisse.
D'accord.
Et donc, il va y avoir une grande traversée, vous vous en doutez, comme d'habitude. Il sera accompagné de Terence qui lui évoque son idylle avec un garçon vaché. Ça sera une sorte de mélange entre les albums de Lucky Luke et le film Brokeback Mountain. Le dessinateur allemand Ralph Koenig a eu envie de décrire sa version de l'Ouest du 19e qui est peuplée de cow-boys homosexuels qui relève d'une réalité historique pour le coup. La sexualité de Lucky Luke n'est pas évoquée. Il est toujours décrit comme solitaire. Voilà. Un conseil bande dessinée à Catherine, parce que là, on aimerait faire une petite liste avec vous.
Oh là là, attendez.
Qu'est-ce que vous avez aimé récemment ou moins récemment? Mais
qu'est-ce que... Oh là, il y en a trop. Je dirais tous les albums de Blutch. Non, il y a un livre que j'aime beaucoup de Richard Maguire qui s'appelle Ici. C'est un auteur américain. Son livre, c'est entre la bande dessinée et l'artbook. Enfin, c'est une expérience sensorielle presque. Il a décidé de raconter l'histoire d'un lieu. Mais en changeant en ne variant jamais l'angle, mais en changeant les époques. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, l'image d'une pièce dans un salon, et puis à la page d'après, c'est le même angle, la même pièce, mais à la préhistoire, à la page d'après, c'est au XVIIIe siècle. C'est vraiment un livre sur le temps. Il est extraordinaire, ce livre.
Ici, de Richard Maguire. Ouais.
Un livre à éviter?
Non, un livre bon pour s'endormir, pour... Pour l'éviter.
Est-ce que vous aimeriez, on a parlé de Lucky Luke, attendez, j'ai pas le truc pour le jeu de mots, la cymbale. Voilà. Je suis un peu plus lente que Nagui sur la cymbale, pardon. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une figure qui existe déjà dans la bande dessinée que vous aimeriez vous réapproprier?
Non, pas vraiment. Non.
C'est difficile de s'inscrire dans les traces. On parle de Lucky Luke, on parle d'Astérix ou de...
C'est difficile sans doute parce que les ayants droit exigent beaucoup de choses.
Il y a eu récemment un corto avec Bastien Vives, un corto maltais, très différent, très beau, très très aéré, différent vraiment.
Oui, bien, très différent. Il y a le Spirou d'Émile Bravo, le Lucky Luke, on en parlait de Mathieu Bonhomme comme de Ralph Koenig. Non, je reste lectrice de ces albums, mais je ne pense pas à me réapproprier un personnage, ça pourrait venir, mais j'aurais peur d'être trop contrainte. Ouais. Voilà,
j'aime pas être suffisamment libre.
Je veux être libre.
Alors on a la jeune femme et la mère qui est très libre chez Dargo de Catherine Meurice. Les prochaines semaines seront consacrées à quoi ? Vous avez déjà peut-être de nouveaux projets déjà lancés. Vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Alors j'ai un projet dont je ne peux pas parler.
Ah, merci, ça nous aide.
Voilà. Et sinon, non, là je suis un peu rincée. On est toujours un petit peu vidé une fois qu'on a.
Ouais. C'est combien de temps de travail un album là ?
Alors j'ai écrit le scénario, comme je le disais, en mars 2020, mais j'ai longuement réfléchi. Après, quand je me mets au boulot, c'est 8 mois de dessin, d'ancrage, de travail
non-stop.
Avec la coloriste non-stop. Oui, c'est vraiment un travail de moine, copiste. C'est c'est à la fois formidable et
épuisant.
Épuisant.
Ouais. Et combien de temps on se donne ensuite pour recommencer ? On se dit allez là, je m'octroie des vacances, je m'octroie le temps de réfléchir et d'avoir une nouvelle envie parce que ça met aussi du temps.
Oui, ça j'essaie de me le dire, mais j'ai beaucoup de mal à prendre des vacances. Non, maintenant avec l'expérience que j'ai, parce que maintenant je vieillis, c'est que je sais en principe que les envies vont revenir, qu'une idée va surgir. Là pour le moment, je peux rien vous dire. C'est vraiment, je suis complètement friche, mais je sais que ça va revenir.
De la poésie, de l'humour, une immersion au Japon, la jeune femme et la mère de Catherine Meurice aux éditions Dargo. Daniel, il est temps de présenter des excuses quand même.
Oh, ça, il y en a beaucoup. Attention, désolé déjà pour nos fidèles auditeurs lettrés qui ont été effondrés d'entendre les références navrantes de Catherine Meurice, à savoir Nicky Larson et le Prout. Je comprends mieux maintenant pourquoi dans les couloirs Augustin Trapenard et Laure Adler me disent « Plus jamais on l'invite, ça !» Désolé pour tous les grincheux qui pensent que la musique ne sert à rien, qu'elle n'aide pas à se reconstruire. Eh ben si, vous avez entendu notre invité. C'est en écoutant à Rome Kenji Sakai qu'elle a repris goût à la musique. Moi, c'est un autre Kenji musicien qui m'a redonné goût au barbecue. On a peut-être le Kenji qu'on mérite. Désolé pour tous les dealers qui croyaient vendre la meilleure herbe du monde. Ah ben non, vous l'avez entendu, Catherine Meurice l'a bien fait comprendre. Le spliff japonais, c'est le meilleur, tu vois, des forêts de brocolis. C'est quand même improbable, cette histoire. Désolé pour tous les intolérants qui n'aiment pas le travail artistique des hommes en recherche qui portent des collants. Bah nous, on aime. Et en plus, ça fait plaisir à notre invité.
La confiture,
merci.
Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Les frères Jacques. Désolé enfin pour tous nos auditeurs urbains, donc civilisés, qui ont été choqués par la prise d'otage d'antenne de Catherine Meurice, Leïla Kadour Boudadi, Alexis Le Rossignol, autour du Marais Poitevin. Oh, la violence, la laideur, la
power.
Province, et pourquoi pas l'Afrique ? À quoi, lundi ? Le film d'Aïssa Maïga, c'est sur l'Afrique ? On va pas s'en sortir. Bon, allez, bon week-end quand même.
Merci Daniel, merci à tous. Merci Catherine Meurice d'avoir été
beaucoup
avec nous dans cette émission. C'était un bonheur de vous avoir pour parler de la jeune femme et la mère aux éditions Dargo. Merci à tous autour de la table. Passez une très très belle journée sur France Inter.